Bonjour et bienvenue dans Démasquer, une émission critique du confinement par des anarcha-féministes sur Radio Virus.
Bonjour, on est trois à faire cette émission. Il y a Monique, Janine et Gertrude. Moi, je suis Gertrude. Et mon pronom, c'est elle. Je suis en France, à Rennes, dans une ville où j'habite pas. Je suis dans un petit appartement en sous-location de courte durée, seul. Je suis pauvre, ça a toujours été comme ça. Et j'ai actuellement un petit RSA. Et j'ai une culture politique anarchiste et féministe.
Et moi, c'est Janine. Mon pronom, c'est elle. Je suis à Berlin, en Allemagne. Je suis dans ma colocation, on est cinq et on a une terrasse. Je suis au chômage en ce moment et j'ai été élevée par un père seul qui n'avait pas de problème de thune.
Eh ben bonjour, moi c'est Monique, c'est elle. Je suis à Toulouse, dans un petit appartement sans terrasse, on est deux. Je suis travailleuse du sexe, du coup j'ai pas de RSA ou de chômage. Et j'ai toujours été pauvre.
Le thème de ce premier numéro, c'est la flambée autoritaire sous couvert d'urgence sanitaire.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter un morceau de La Gale qui s'appelle Acrimonium.
J'ai des crashs en réserve, que mon insolence me desserve. Je croiserai ces démons à qui j'ai refilé une clope au détour d'une ruelle là où brûle un peu de feu. Quel que soit le nombre d'années de vie dont j'écope, il restera un peu de place pour eux au fond de mes yeux. Répondront-ils de leurs actes lorsque grondera la foule? Leur silence est intact et les flics se défoulent. Pas de futurs sont partis en garde balangue, accidenté entre les roues et les arts. Sinon, mets les blindés, etc. Ta roue privilège coupé de haut en bas. Que l'on maîtrise pas, la torpeur d'ici la révolte là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat, cogiter dans sa cage comme un putain de puma. Ses futurs sont partis en garba, langue accidentée entre les roues et les arts. Sinon, mets les blindés, etc. Ta roue privilège coupée de haut en bas. C'est une image que l'on maîtrise pas, la torpeur d'ici la révolte là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat, cogiter dans sa cage comme un putain de puma.
Pas mal.
Ok, et bah du coup ça va être notre première partie dans notre émission. On va se demander comment, avec toutes ces nouvelles lois là qui tombent ces dernières semaines, et bah on se dirige doucement vers une bonne dictature à la française. Et ensuite on va s'intéresser plus particulièrement à l'espace public et on va voir comment la dictature s'insinue aussi à l'intérieur de nos esprits. En faisant en sorte que l'extérieur devienne un synonyme de danger pour nous, et bah on se met on se met à y croire nous-mêmes et à nous auto-censurer de sortir. Et puis, enfin, on va vous parler de la dématérialisation, ou pourquoi se voir moins pour faire plus d'ordi, pour se voir moins, et bah c'est pas tip-top. Joli programme.
Alors, donc, depuis le début du coronavirus, on voit plein d'états qui pètent un peu des câbles, comme par exemple la Hongrie, où Viktor Orban, le Premier ministre, s'est octroyé les pleins pouvoirs. Il a fait voter une loi qui permet au gouvernement de légiférer sur tous les sujets par décret et de suspendre les élections, de déroger à n'importe quelle loi, et ça pour une période complètement indéfinie. Plutôt l'opposition est un peu pas du tout d'accord avec lui, même carrément la droite dure est pas d'accord. Les socialistes le soupçonnent de vouloir éliminer l'opposition, et c'est vrai que ça ressemble quand même vaguement à un début de dictature. Et il faut savoir que la Hongrie est en état d'urgence depuis 2015 en raison d'une crise migratoire, et que cet état d'urgence n'a jamais été levé depuis. Et en plus de ça, ils ont prévu des petites peines de prison de 5 ans si jamais tu diffuses des fausses nouvelles, sachant que c'est le gouvernement qui l'a décidé de ce que c'est une fausse nouvelle. Voilà, c'est sympa la Hongrie. Voilà, et il y a une interdiction de manifester, bien sûr, pour les habitants.
Ça me rappelle quelque chose, moi.
La justification, c'est qu'il fait ça pour endiguer l'épidémie, comme si devenir dictateur, ça allait arrêter le virus. Quoi.
Super.
Tu voulais faire un lien, du coup, entre la Hongrie et la France, c'est ça?
Oui, bah oui, nous allons bientôt découvrir comment la France devient par voie légale une dictature exactement sur le même modèle que la Hongrie. Mais étonnamment, aucun titre de journal ne l'annonce comme ça. En France, pour les scientifiques et le gouvernement, la Corée du Sud est l'exemple parfait pour avoir une sortie du confinement assez rapide. Et la solution qu'a choisie la Corée, c'est d'avoir des tests massifs couplés à un suivi des personnes infectées ou susceptibles de l'être, à la fois par suivi téléphonique et à la fois avec des histoires de vidéosurveillance. En gros, c'est le même système que la Chine, mais on nous vend plus le modèle coréen parce que c'est une version plus tolérable pour nous, parce que la Corée est vue comme une démocratie ici, alors que la Chine est vue comme une dictature. En France, pour l'instant, la réponse technologique, le fichage, quoi, ça se limite à une analyse volumétrique avec une coopération entre Orange et l'Inserm. Ça veut dire que tous les gens qui sont pas chez Orange, ils sont pas suivis. Une analyse volumétrique, c'est comparer le nombre de gens qui vivent dans une aire donnée, qui vont se croiser, se côtoyer. En gros, c'est pour voir, toi qui es chez Orange, et on sait que t'es contaminé, qui est-ce que t'as croisé, qui sont aussi chez Orange, donc qui vont être potentiellement contaminés. Pour l'instant, on nous dit non, mais vous inquiétez pas, vos données, elles sont anonymes et tout. Mais en fait, nos données, elles sont anonymes s'ils cherchent pas à les savoir, parce qu'en fait, ils savent à qui appartient chaque puce. Et en France, par exemple, c'est clairement une agence gouvernementale qui gère ça. Donc, le jour où le gouvernement veut savoir, ben, il pourra.
Mais c'est quoi qui nous fait peur en vrai? Est-ce que c'est le fait de se dénoncer en tant que porteur d'une maladie, ou est-ce que, et que ce soit visible du coup par tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait plein de données qui se retrouvent accessibles et manipulables par l'État?
Puis moi, ce qui me fait flipper, c'est le côté aussi à nouveau psychologique du truc, c'est-à-dire... Ça devient de plus en plus normal dans la tête de tout le monde que quand il y a entre guillemets une crise, eh ben il faut que l'État ait accès à toutes nos données et en fasse ce qu'ils veulent entre guillemets quoi. Ça devient de plus en plus quelque chose de basique que de toute façon les données qu'on a sur nos ordi, sur nos téléphones, elles nous appartiennent pas, elles appartiennent à tout le monde et l'État peut en faire ce qu'il veut quoi.
Enfin moi en tout cas c'est vraiment les deux. C'est à la fois parce que, du coup, c'est une gestion complètement, j'allais dire policière, mais autoritaire de la crise. Et à la fois parce que, qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la plupart des gouvernements, ils nous disent pas ce qu'ils comptent faire après la crise, quoi. France, clairement, depuis 2015 et les attentats, il y a vraiment un gros délire avec un espèce de triptyque... surveillance égale sécurité égale liberté, quoi. Et là, aujourd'hui, sécurité est remplacée par santé, quoi. Surveillance égale santé égale liberté. Ce qui est assez marrant, c'est que en France, ce truc-là, il est... La mise en avant technologique, elle permet de dissimuler la nullité des politiques publiques en criminalisant les passants et en faisant comme si la géolocalisation des malades allait compenser la pénurie de masques ou l'absence de tests ou l'absence de lits en hôpital. Que s'il y a plein de morts, ça va être de ta faute parce que toi tu sors de chez toi, mais pas la faute du gouvernement qui a vendu l'hôpital public comme ça au profit de cliniques privées, au profit du profit finalement. Il y a un chercheur sur la question de la surveillance en France qui dit cette phrase assez intéressante. À la faveur de la pandémie, l'espace public quasi militarisé devient un laboratoire sécuritaire. Nous n'y avons plus accès que sous des conditions très strictes. Les gouvernements nous répètent que nous sommes en guerre. Le coronavirus accélère une dynamique des villes sûres, bardées de capteurs, à l'intérieur desquelles la vidéosurveillance devient intelligence, où les élus rêvent de reconnaissance faciale. On est au-delà de... Ça y est, on a dépassé 1984, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des trucs qui existent déjà sur Internet, que une bonne partie des gens ont conscience que tout sur Internet est traqué et que toute notre activité elle est espionnable, en gros. Mais la résistance n'est pas spécialement active. Du coup, si ça arrive dans le monde réel, entre guillemets, dans la rue, est-ce qu'on va avoir de la résistance ou quoi ? Ça, c'est une question un peu flippante, je trouve.
J'ai l'impression qu'il y a une résistance de la part des gens, mais quelle possibilité de résistance on pourra avoir. Moi, c'est plus ça qui m'intrigue, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à ce que Foucault, il appelle le moment de continuum carcéral, où les techniques normalement dites pénitentiaires vont arriver dans la vie de tous les jours, quoi.
Et du coup, c'est quoi les techniques pénitentiaires, pour qu'on comprenne bien ? Ça me paraît très abstrait, quoi, pour l'instant.
Ben en fait, c'est un principe qu'on utilise de ouf pour expliquer la surveillance sur Internet. C'est un truc qui est extrêmement important à avoir en tête pour comprendre les enjeux des nouvelles technologies aujourd'hui. Ben, c'est que la panoptique, c'est la capacité à voir tout. Depuis un seul point. Par exemple, il y a une prison panoptique, il y a plusieurs prisons panoptiques qui existent, qui sont des prisons où il y a un gardien qui est au milieu, et la prison, c'est un espèce de cercle, avec depuis le centre du cercle, on peut voir l'intégralité de toutes les cellules, simplement en changeant de hauteur. Du coup, il y a un maton qui peut surveiller tout le monde d'un coup. Et de ce fait, se sentant surveillé, chaque individu étant dans cette prison limite automatiquement ses mouvements, sa créativité. C'est souvent ça qu'on en vient à dire. Une société panoptique, c'est une société qui va mettre de la surveillance en continu partout, tout le temps, de façon à ce que la censure, elle ne soit pas produite par le gouvernement, mais elle soit produite par les individus eux-mêmes, elles-mêmes, et que il y a une baisse significative de la créativité et de la résistance.
J'aurais pas du tout su le dire avec des mots aussi simples. Merci beaucoup, Gertrude. Et d'ailleurs, en France, du coup, on n'est pas encore dans l'autocensure, mais par contre... Les services d'appel des keufs sont saturés d'appels délateurs, ouais. Et il n'y en a jamais autant eu. En plus de ces délateurs français qui sont un peu inquiétants, il faut se rappeler que la France est la grande spécialiste pour faire tomber dans le droit commun ces lois dites d'exception. Donc les lois d'exception, c'est toutes les lois qui vont régir l'état d'urgence ou ce nouvel état d'urgence sanitaire tout beau tout neuf créé spécialement pour le coronavirus. Si vous voulez savoir, j'ai une liste de différents points qui sont normalement dans l'état d'urgence, qui sont tombés dans le droit commun aujourd'hui. Il y a les assignations à résidence, il y a la fermeture de certains lieux, l'interdiction de manifester, qui peut être prononcée dès que le gouvernement le veut. alors que normalement c'est que s'il y a un état d'urgence qu'on a pas le droit de manifester. Et les perquisitions administratives de jour comme de nuit. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir que l'état d'urgence de 55, il est vraiment immonde. Hein. C'est l'état d'urgence de 55, il est mis en place parce que l'État français ne veut pas assumer qu'il rentre en guerre avec une partie de la population algérienne, vu qu'il vend aux Français l'Algérie comme étant un département français. Et ça leur permet d'éviter d'accorder aux prisonniers algériens le statut de prisonnier politique. Et de pouvoir les enfermer dans des camps. Parce que les assignations à résidence en 55, c'était des assignations dans des camps. Ensuite, l'état d'urgence, il est plus utilisé jusque... Je crois que c'est 86, la date exacte, où il est utilisé en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a un mouvement indépendantiste qui... Bon, finalement, un peu le même modèle que l'Algérie, quoi. Donc hop, état d'urgence. Comme ça, une nouvelle fois, les opposants politiques ne vont pas pouvoir être considérés comme... comme des prisonniers politiques, mais comme des prisonniers de droit commun, et on fait ce qu'on veut avec.
Bravo aux différents gouvernements français, quoi.
Eh ben, qu'ils crèvent, tous ces connards, voilà, qu'ils crèvent dans leur petite merde. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Et se pose donc la question, à quoi va ressembler notre vie privée et le secret médical après l'état d'urgence sanitaire ? Quelle loi d'exception on va encore garder ? Parce que le gouvernement a fait 25 ordonnances, donc 25 lois en fait, hein, qui sont normalement censées durer 15 jours. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Et ça pue la merde! Déjà, le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il est pas clair. Qui est en cas d'épidémie. Donc ça veut dire que n'importe quel type d'épidémie, ils peuvent le relancer. Donc tous les ans, on a des épidémies de grippe, voilà. C'est une loi qui a été posée sans débat. Et donc c'est le Conseil des ministres qui a décidé tout ça et qui n'a pas débattu avec les parlementaires ou avec le Sénat. Donc là, on est complètement dans un régime dictatorial. Hein. On n'est plus même en libéral-démocratie, quoi, là. Ils ont annoncé l'état d'urgence sanitaire et la nuit même, ils ont voté les 26 lois au calme. Ils ont décidé de ces lois, comme ça, le Conseil des ministres et Macron. Alors, j'ai pas trouvé toutes les 25 ordonnances, c'est pas plus mal, ceci dit, mais j'ai en gros les plus importantes. Donc, les trucs cool. On a les ordonnances créent une nouvelle réduction des peines de 2 mois pour les détenus, qui vont être convertis en assignation à résidence. Donc, pour le coup, comme on est en confinement, ça n'a pas trop changé pour les gens qui vont être assignés à résidence. Elles ne pourront toutefois pas concerner les personnes condamnées pour terrorisme ou violence intrafamiliale. Les ordonnances prévoient une prolongation des droits ouverts pour plusieurs minima sociaux, dont la trêve hivernale qui est prolongée jusqu'au 31 mai et qu'il sera de nouveau si le confinement continue à être reculé comme ça. Et la trêve hivernale comprend à la fois l'impossibilité de se faire virer de son logement, mais aussi les coupures d'élec. Les fournisseurs d'énergie n'ont plus du tout le droit de couper l'élec, même si t'as pas payé. Les ordonnances prévoient une modification des titres de séjour. Tous les documents qui arrivaient à expiration entre le 16 mars et le 15 mai ont une validité prolongée de 90 jours. Et a priori, c'est valable aussi pour les OQTF. Les obligations à quitter le territoire français qui ont été délivrées dans les 15 jours avant l'annonce de l'état d'urgence sanitaire ne vont pas pouvoir être applicables. Ce qui les a pas empêchés de mettre plein de gens en CRA au début du confinement. Mais c'était pas encore passé, en fait, pardon. Et du coup, un truc pas cool, les entreprises vont pouvoir déroger temporairement aux durées maximales de travail et aux règles de repos hebdomadaire dominical. Et on sait pas du tout pendant combien de temps ils sont autorisés à faire travailler les travailleurs. À la fois par semaine et par jour aussi. Parce que normalement, t'as pas le droit de travailler plus de 5 heures consécutives sans pause. Bah là, c'est fini. Si ton entreprise, elle décide que tu vas devoir bosser 10 heures consécutives sans pause, elle a le droit. Et en super super trash, il y a plein d'ordonnances qui concernent ce qui se passe en prison. Et ces ordonnances-là, la ministre de la Justice a été très claire sur le fait que c'est pas la fin de l'état d'urgence qu'allait annuler ces lois.
Waouh, ça fait froid dans le dos.
Donc toutes les détentions provisoires sont prolongées automatiquement de entre 3 et 6 mois. C'est énorme. Les avocats et les juges n'ont plus le droit de débattre sur cette question-là. Donc ça veut dire que là, il y a 21 000 détenus en France qui sont en détention provisoire. Et bien, ces 21 000 détenus, leur détention provisoire, elle est prolongée pour tous entre 3 et 6 mois. Les avocats n'avaient pas été prévenus de cette mesure. Il y a plein d'avocats qui ont découvert ça en allant au tribunal et en attendant pendant des heures et des heures des juges qui n'arrivaient pas. Les détenus n'ont plus droit aux visites. Ils n'ont plus le droit de cantiner. Et en fait, c'est plein d'ordonnances qui n'ont absolument aucun rapport en soi avec l'état d'urgence sanitaire. Il y en a une autre qui élargit le recours au juge unique pour les audiences correctionnelles. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien. Mais par contre, on a toujours droit aux avocats lors des gardes à vue. Super sympa. Et les juges ont désormais le droit de statuer à huis clos. C'est sympa, hein, les petites ordonnances de l'État français. Je crois que ma conclusion, c'est qu'on ne connaît pas la fin de ce truc-là. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il n'y a rien qui est clair. Le gouvernement a dit que c'était pas plus de 15 jours au départ. Et puis, en même temps, comme ils ont déjà fait avec l'état d'urgence, à le prolonger 6 fois tous les 6 mois, j'ai l'impression qu'ils peuvent nous prolonger ad vitam aeternam, quoi. Tant qu'ils considèrent qu'on est en épidémie, ça va rester. Et officiellement, il n'y a plus que le gouvernement exécutif qui a le droit de prendre des décisions à l'heure actuelle dans l'État français.
Donc en fait, on en est quasiment au point de la Hongrie, ce que tu décrivais au départ. Hein.
En plus, comme le rappelle Sylvie Thénault, ces mesures d'exception qui sont toujours discriminantes sont acceptées par les populations parce que la majorité pense qu'elles ne seront jamais touchées par ces lois. La majorité des habitants d'un pays pensent qu'ils ne vont pas être touchés par ces lois.
Et moi, j'avais compris que dans les différentes ordonnances là, de l'état d'urgence sanitaire, il y avait aussi, qu'en gros, on légalisait tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire on a le droit de confiner des gens, on a le droit de contrôler dans la rue pourquoi t'es dans la rue, on a le droit d'interdire des manifestations, toutes ces choses-là qui n'étaient pas dans la loi, on leur donne une légitimité légale.
Ouais.
Sympa. Alors, il se trouve qu'il y a les flics qui sont à environ 50 mètres de ma fenêtre et qu'ils ont l'air de faire chier du monde. Du coup, je vais juste leur crier d'aller crever un petit coup.
Ce qu'on vient de voir dans cette première partie, c'est que les nouvelles lois qui viennent d'être mises en place avec le prétexte du coronavirus, en prenant ce prétexte-là, elles accentuent la surveillance de l'État et elles réduisent nos libertés, la plupart. Et je pense que ces mesures et ces lois, elles ont un impact qui va être probablement à long terme, comme tu le disais Monique, sur tous les aspects de notre vie, à commencer par notre liberté de circulation, notre liberté à être juste présente quelque part, à être dehors, à être dans la rue. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, en plus dans une grande partie du monde, pas que en France, ça va juste plus de soi de pouvoir sortir de chez soi. Avant ces dernières semaines, c'était même pas un truc qu'on pensait remettre en question, qu'on n'ait pas le droit de sortir de son appart ou de sa maison. Et là, à l'heure actuelle, la moitié de la population mondiale est confinée. Il y a 3 milliards de gens qui n'ont pas le droit ou qui sont restreints à sortir de chez eux. Et qu'au passage, le mot « confiné », et c'est un mot, ou le mot « confinement », c'est un mot qu'il y a vraiment encore pas longtemps du tout. On n'utilisait jamais, en fait. Enfin, limite, on ne connaissait pas ce mot-là. En tout cas, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Et là, tout d'un coup, on l'entend et on l'utilise, mais limite des dizaines de fois par jour, quoi.
J'ai l'impression que c'est un mot qui sort de nulle part pour éviter d'avoir à utiliser le mot « enfermement ».
Ouais, c'est un peu un truc de novlangue, de tout d'un coup, on te sort un espèce de concept comme ça, qui a l'air un peu gentil, c'est presque, ouais, cool, est devenu complètement normal, dans notre langage quotidien, de dire « je suis confinée, il y a le confinement ». Et ce que tu montrais dans la première partie de notre émission, c'est que le confinement, en France, avec l'état d'urgence sanitaire, c'est maintenant une possibilité qui est inscrite dans le droit. Et en plus, enfin, cette nouvelle situation, là, de confinement, elle crée des nouvelles manières de penser pour nous. On pense plus les choses de la même manière. C'est comme s'il y avait une nouvelle normalité dans nos têtes. Et dans cette nouvelle normalité, eh ben, ça serait normal qu'une population entière puisse être assignée à domicile. Il y a encore, je sais pas, peut-être avant janvier, on n'aurait jamais imaginé ça, quoi. Et là, tout d'un coup, enfin, semaine après semaine, on arrive à trouver ça normal. Et il y a une nouvelle normalité qui apparaît dans laquelle la rue, le parc, l'espace public en général, il nous appartient plus. Alors qu'avant, c'était juste normal d'être dehors, c'était aussi notre espace à nous, il n'y avait pas que notre appart ou notre chambre qui était à nous. Et c'est comme si on intégrait ces idées en nous en ce moment, comme si elles rentraient dans notre inconscient. Et je pense que ça aura des conséquences sur notre imaginaire, mais bien au-delà de ces quelques semaines ou ces quelques mois, en fait. Je pense que ça va... En tout cas, ça risque de changer notre idée de ce qui est à nous, de ce qui est notre droit, de ce qui est acceptable, et juste de ce qui va de soi ou pas.
Non, mais clairement, moi, rien que l'idée de quitter la ville, c'est un truc, ça me fait super peur, c'est complètement irrationnel, je sais même pas ce que je risque en quittant la ville, mais j'ai l'impression que c'est hyper grave de faire ça.
Ouais, exactement, ça crée une forme de menace... indistinct, mais qui est vraiment rentré en nous, limite dans notre inconscient, sans vraie raison rationnelle, quoi.
Il y a des potes qui m'ont raconté avoir des réactions de recul en voyant des scènes de contact ou des scènes avec plein de gens dans la rue, à la télé. Avec assez peu d'imagination, on peut vite s'imaginer une scène où dans 3 générations ou 2 générations, je sais pas, il y a une grand-mère qui parle avec ses petits-enfants et qui lui raconte que quand elle était jeune... on touchait les gens qu'on aimait, on faisait la bise, on se serrait dans la main, on allait dans la rue, et que les petits-enfants, ils seraient complètement déconcertés par tant de laxisme à l'époque, je sais pas.
Ouais, qui dirait « Oh là là, mais vous vous rendez pas compte, c'était dangereux, vous étiez fous, vous pourriez attraper des maladies, c'est dégueulasse. »
Mais là, ils annoncent un truc de « la distance sociale devrait continuer jusqu'à 2022 ». Du coup, effectivement, c'est un truc qui va complètement rentrer dans les normes. Déjà que les Occidentaux, on se touchait pas de ouf.
Ouais, dans les normes et dans nos têtes et dans nos mentalités, en fait. Et j'avais envie un peu d'essayer de comprendre exactement comment est-ce que ça s'insinue en nous, quoi, cette idée-là. Et petit à petit, enfin en tout cas avec les mesures qui sont prises là en ce moment... Et bah, on nous met dans la tête qu'on a besoin d'un justificatif, d'une justification pour sortir de chez nous. Donc il y a clairement l'attestation de déplacement hein, qui provoque ça, puisque et bah, il faut que tu... Enfin, c'est aussi... En fait, c'est l'attestation de déplacement en soi, c'est complètement psychologique et de la manipulation mentale, parce que c'est pas comme... Enfin, normalement, une attestation, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi, quoi. C'est soit... le directeur de l'école quand t'es à l'école, soit c'est une administration quand t'es adulte, etc. Mais c'est une personne extérieure qui a une autorité sur toi qui te donne une attestation. Et là, on demande aux gens d'écrire une attestation pour eux-mêmes. Enfin, c'est quand même, quand on y pense, c'est complètement absurde, quoi. Et c'est que une histoire de psychologie, de te mettre dans la tête, ah oui, si je sors, il faut que je m'écrive, il faut que j'écrive un papier, il me faut quelque chose, et il faut que j'écrive dessus... la raison pour laquelle je sors. J'ai besoin d'avoir une raison. Je peux pas juste sortir parce que je sors dans la rue, quoi. Et du coup, il y a aussi un aspect qui est vraiment aussi l'aspect mental, parce que, par exemple, là où je suis à Berlin, il n'y a pas besoin de cette attestation-là, mais par contre, on te dit qu'il faut quand même que tu aies une raison de sortir, par exemple, faire du sport, etc., comme en France. C'est-à-dire que même sans devoir remplir un papier, il faut qu'à chaque fois que je sors, je me dise, ah ouais, si je me fais contrôler là dans la rue, il faut que j'ai quelque chose à leur dire.
Nous, là, en France, ça y est, c'est officiel, on n'a plus le droit de sortir à 2. Il n'y a que si t'es avec ton enfant que t'as le droit de sortir à 2. Et les justificatifs, c'est... le ministre de l'Intérieur, il a dit très clairement, c'est à la police de juger si oui, c'est valable ou pas ce que tu dis.
Ouais, ça c'est intéressant, on va en parler après dans la suite du truc... Mais c'est clair que la police, là, elle est en train, enfin, les flics sont en train de prendre une grande place dans la vie quotidienne de tout le monde, ne serait-ce que comme menace de « je peux me faire contrôler dès que je mets le pied hors de chez moi ». Et donc, ça aussi, ça crée une sorte de pression de savoir que je peux me faire contrôler à tout le moment, il faut que j'ai un justificatif, il faut que je sache pourquoi je suis dehors, je peux pas juste sortir comme ça.
Et tu risques la tôle.
Ouais.
Ouais, et après, je pense que ça change. Enfin, pour plein de gens, ça change pas beaucoup de d'habitude, en fait. Typiquement, des gens qui ont pas de papier ou des gens qui ont. Je sais pas, qui sont plus amenés à croiser les flics dans la vie et à se faire emmerder par les flics. Bah, cette situation-là, elle est pas tant différente. Ce qui fait que c'est un peu choquant, c'est que ça devient la même pour beaucoup plus de gens qu'avant, j'ai l'impression.
À fond. Et en même temps, en même temps, moi, je connais des gens qui sont sans papier et ce que je m'en aperçois pour eux, c'est que c'est encore plus de stress parce que comme il y a plus de contrôle, comme c'est plus présent, genre, si je vais avec eux dans un parc, et bah, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'avant qu'on se fasse contrôler. Et du coup, c'est encore beaucoup plus de pression pour eux qu'en temps normal.
Ah ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est 1000 fois pire le contrôle que avant pour les populations, en tout cas en France, dans les cités, quoi. Là, à Toulouse, il y a un type qui a pris du ferme parce qu'il dormait dans sa bagnole, quoi. Et que les flics ont trouvé que c'était pas justifié de dire, bah en fait, on habite à 7 dans un appart de 70 mètres carrés. Oui, bien sûr, je vais dormir dans ma caisse.
Et c'est pas les mêmes conséquences en plus. Parce que là, c'est encore un exemple de ça change rien du tout par rapport à cette histoire de corona, d'épidémie, de pouvoir le transmettre à des gens. Si tu dors tout seul dans ta caisse, c'est vraiment juste de la pure répression.
Bon après, moi j'ai l'impression que les retours, des retours que j'ai en tout cas, il y a un truc de. Les gens les plus flippés, c'est les gens qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de contrôle et de contrôle incessant, et qu'il y a plein de gens pour qui c'est déjà habituel en France. Et bien sûr que c'est pire aujourd'hui, mais n'empêche que qui c'est qui a le plus peur, c'est les blancs privilégiés, quoi, j'ai l'impression.
Bah, il y a un peu deux tendances en même temps, quoi. Il y a ce que tu dis et il y a le fait que, bah, les personnes qui subissent le plus la répression, c'est pas les blancs privilégiés, quoi. Et je voulais aussi dans cette partie-là sur le contrôle et du coup la possibilité encore plus permanente avec encore plus de conséquences des contrôles de flics. À la fois les contrôles des keufs et il y a aussi la fois les contrôles des voisins et de tous les uns avec les autres. Parce que c'est complètement de ouf. Il y a des centaines, des milliers d'appels par jour au 17 pour faire de la délation de ses voisins, etc. J'ai lu dans un article qu'il y a 70% des appels au 17 dans le Grand Est qui sont pour faire de la délation par rapport au confinement. La mairie de Paris a même fait des annonces pour dire qu'il fallait arrêter de faire ça parce que les services téléphoniques sont saturés. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Voilà, donc on est vraiment dans une histoire de contrôle où dès que tu sors de chez toi, tu sais que tu vas pouvoir être épié, que ça soit par des keufs ou par des gens qui habitent dans ton quartier, quoi. Ça crée quand même une bonne ambiance en ce moment, qui, ouais, je pense, ça participe aussi au cette espèce d'impression de flip général, même si tu sais pas exactement pourquoi tu flippes de sortir. Et y a un autre truc, c'est que plein de gens à plein d'époques ont connu, mais qu'en tout cas, moi j'avais jamais connu, c'est que tout d'un coup ça devient plus possible de se déplacer d'un quartier à l'autre. En France, t'as le droit à officiellement être à 1 km de ton domicile. En Allemagne, il n'y a pas cette histoire de 1 km autour de ton domicile, t'as le droit d'aller faire du sport à l'autre bout de la ville si tu veux. Mais par contre, ils ont remis comme des frontières entre chaque région et il y a des contrôles de flics aux frontières des régions. Et c'est pareil, il faut que t'aies un justificatif pour avoir le droit de passer d'une région à l'autre. Et puis sans parler de passer d'un pays à l'autre, où alors là, tout d'un coup, toutes les frontières ont été remises, tout d'un coup, le nationalisme et pas de solidarité entre les pays, et chacun gère sa merde tout seul, quoi.
Non, mais quand même, ils ont annulé la dette pendant 1 an des pays pauvres. Attends.
Non, mais ils ont pas annulé. Par contre. Ouais, non, mais en vrai, ils font une com qui est en mode annuler la dette. Mais en fait, le sous-titre, c'est pas annuler, c'est remettre à plus tard. Ou je sais plus ce que c'est exactement les mots qu'ils choisissent, c'est des mots compliqués là.
Ils la gèlent pendant 1 an. Mais accessoirement, ils le font aussi entre eux. Hein. Le G20 a aussi annulé ses propres dettes pendant 1 an.
Ouais, bon, voilà quoi. C'est tip-top.
Mais ouais, en tout cas, on voit que quand il y a une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout d'un coup, tout le monde se replie dans le côté, dans à l'échelle de son pays et redevient. Il y a à nouveau une sorte d'atmosphère comme ça de nationalisme dans toute l'Europe, un petit peu au moins de problèmes, quoi. Ça donne en tout cas cette impression-là, moi, je trouve. En tout cas, toutes ces interdictions tous ces contrôles, elles sont faites aussi avec des moyens. Il y a des outils qui sont aussi mis en place pour ça. Et par exemple, nos bons hélicos de la gendarmerie nationale, on se retrouve vachement dans un état... on était déjà dans un état policier, mais alors là, t'as l'impression qu'ils arrivent encore plus à se lâcher et à prendre l'excuse de l'épidémie pour nous balancer des hélicos par-dessus la tête, à nous sortir des drones. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça avant que la gendarmerie avait des drones, etc. Là, tout d'un coup, il y en a à Nice, à Paris, à Marseille, à Lille, sur quasiment tout le littoral français pour surveiller les plages. Et ils sont bien contents de nous le montrer dans des petites vidéos et de pouvoir faire des démonstrations, sachant qu'il y en a certains qui appartiennent à la gendarmerie, mais il y en a d'autres qui sont des drones du privé et qui travaillent en ce moment main dans la main avec soit la police, soit la gendarmerie.
Et c'est des trucs qu'ils ont pu tester de ouf sur la ZAD pendant les diverses expulsions qu'il y a eu.
Ouais, puisqu'il y a la réalité des choses qui était en fait pas montrée, quoi. Et le ministère de l'Intérieur vient de passer une commande le 12 avril pour 4 millions d'euros de nouveaux drones. Hein, tout d'un coup, en fait, on se dit que ça passe plutôt bien, là, en ce moment, dans l'opinion publique pour protéger la population. Donc, bim, on balance 4 millions d'euros de drones de différentes tailles. Il y en a trois, ils ont fait un devis pour trois drones différents. Donc, il y en a des gros qui vont être bien visibles et qui vont pouvoir aller sur des grandes distances. Et ils ont aussi fait des commandes de petits, de moins de 20 grammes, je crois. Pour pouvoir aller faire des missions de surveillance rapprochées. Des trucs sympas. Je sais pas, je trouve que c'est aussi vraiment tellement un peu presque de la provocation aussi de dire il n'y avait pas d'argent pour les masques dans les hôpitaux, etc. Mais par contre, là, pour débloquer 4 millions d'euros pour commander des drones, tout d'un coup, on trouve de l'argent.
Il me semble qu'ils ont fait une grosse commence de LBD aussi, d'ailleurs. Et dans les deux cas, j'arrive pas du tout à comprendre si c'est pour maintenant ou si c'est pour après.
Bah là, dans les drones, ils ont clairement dit que c'était pas lié à la crise du coronavirus et que c'était pour les opérations de surveillance et de... Enfin, ils ont pas dû dire répression, mais en gros, maintien de l'ordre exactement au niveau des frontières et aussi pour la sécurité nationale. Voilà, et dans le genre répression et en quoi ça va aussi changer notre mentalité, parce que c'est ça, quoi, si on commence à avoir des hélicos et des drones au-dessus de nos têtes en train de nous épier tout le temps, ça change forcément la manière dont tu vois les choses et qu'est-ce que tu peux imaginer de faire ou qu'est-ce que tu peux te sentir de faire.
Bah ouais.
Et après, il y a aussi des mesures encore plus qui sont encore plus directes, comme par exemple, c'est pas possible en ce moment d'aller manifester, quoi. Tu peux pas te rassembler. Et alors en France, c'est complètement clair, parce que de toute façon, t'as même pas le droit d'être à deux, etc. Mais en Allemagne, c'est pareil, alors que t'as le droit d'être à deux dans la rue, et que t'as le droit d'être dans un parc en train de faire un pique-nique si t'es à plusieurs mètres d'une autre personne, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont autorisés. Et par contre, les rassemblements politiques, c'est interdit. Donc on voit aussi qu'ils en profitent pour faire de la bonne petite répression politique et de décider aussi qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est indispensable en ce moment à la survie des gens, à la vie sociale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine en ce moment, c'est encore pire qu'ici a priori dans ce qu'on en voit dans les médias, et ça peut aussi nous laisser penser à ce qui pourrait arriver en France ou en Europe prochainement, parce qu'en fait tout ce qui est cette histoire de contrôle et de nous restreindre dans nos mouvements et dans nos déplacements, et ben en Chine ça passe beaucoup plus par les nouvelles technologies qu'ici, où ce qu'on voit là, ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est pas des nouvelles technologies de ouf, à part peut-être les nanodrones. Et en Chine, ils ont le même système de fonctionnement, mais ils utilisent à fond les téléphones portables et la vidéosurveillance pour tracer tous les déplacements de tout le monde. Et on peut imaginer, enfin, c'est encore 10 000 fois pire, les impacts aussi psychologiques que ça a quand tu sais que l'État, le gouvernement, les autorités, peuvent en permanence, à n'importe quel instant, savoir exactement où t'es et ce que tu fais avec ton téléphone portable et leur caméra, quoi. C'est vraiment encore un niveau beaucoup plus ouf.
Puis en plus, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on peut pas trop se passer de téléphone portable, quoi. Parce que là, j'allais dire, on a qu'à tous arrêter d'avoir des portables, mais en fait, t'as pas de portable, t'es confiné tout seul, t'as plus de vie sociale, quoi.
Non, mais c'est ça le truc aussi en Chine, c'est que nous, on peut relativement se passer de téléphone portable, en tout cas pour sortir. Tu peux très bien dire, je garde mon téléphone portable chez moi, mais par contre, les moments où je sors, je le laisse à la maison. Mais ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a un système qui fait que pour aller n'importe où tu veux aller, il te faut ton téléphone portable. Par exemple, si tu veux rentrer dans un parc, il va falloir que tu aies un QR code sur ton téléphone portable et que tu bipes à l'entrée du parc pour avoir l'autorisation de rentrer dans le parc, soi-disant pour être sûr que tu sois pas contaminé par le coronavirus. Tu veux aller chez le coiffeur, acheter des trucs au supermarché, c'est pareil, il faut que tu aies ton portable et que tu aies le QR code qui corresponde. Donc en fait, tu n'as même plus cette possibilité de te dire « je vais aller faire mes courses sans mon téléphone ». Et donc sur ça, toute la répression qu'il y a par rapport à l'espace public... En ce moment en France, et puis aussi ce qui se passe à Pékin en ce moment, on a un petit collage sonore à vous proposer là-dessus.
Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne.
Bonjour, venez nous voir s'il vous plaît. Viens, restez, arrêtez-vous. Est-ce que vous avez votre petit papier et votre attestation, s'il vous plaît?
Vous êtes dehors, c'est 135 euros. Si vous revenez d'ici 14 jours, c'est 1500 euros.
Je vais payer 135 euros pour être allé courir dans le parc.
Ils sont en dehors de tout ça. Voilà, ils sont pour eux, je sors de chez moi, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de pandémie, il n'y a rien du tout. Je fais ma vie.
À quelques mètres du sol, au-dessus de la ville déserte ou des banlieues, les gendarmes peuvent distinguer tous les détails. L'hélicoptère joue aussi un rôle psychologique. Le bruit de ses passages répétés à basse altitude et ses messages diffusés par haut-parleurs sont particulièrement dissuasifs auprès des promeneurs.
Je vous demande d'acquitter les lieux. Dans le cas du confinement, vous n'êtes pas autorisé à rester sur place. La promenade est interdite. Rentrez chez vous.
La peur des uns, l'insouciance des autres, et pour mettre de l'ordre, la police.
Qu'est-ce que vous faites dehors, madame ?
Même si c'est bête l'attestation, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dessus, il me faut une attestation.
On retrouve malheureusement toujours les quelques énergumènes qui ont l'habitude de traîner en ville.
Ce que nous venons faire aujourd'hui, c'est contrôler tous ceux qui viennent ici acheter de la drogue et nous les verbalisons pour non-respect des règles de confinement.
Il le dit lui-même, il voit le système comme quelque chose de répressif qui est destiné à récupérer de l'argent.
Donc là, on va réserver les tickets pour aller au parc, en fait, c'est ça?
Bah oui, du coup, c'est un truc de mairie de Pékin. Alors, sur WeChat, on tape...
Demain, nous allons donc, pour la première fois en presque 3 mois, sortir de chez nous. Nous allons sortir du confinement. Mais désormais, la liberté est sous contrôle, limitée. Même pour aller dans un parc.
Voilà, tout le monde y passe, prise de température... Hop. Donc voilà, il y a des sas qui sont mis en place pour passer. Voilà, c'est parfait. On est bon.
Le téléphone mobile a ainsi été reconverti par les autorités en instrument de contrôle de chaque citoyen. C'est presque un bracelet électronique. Sauf que les Chinois n'ont pas d'autre choix s'ils veulent pouvoir se déplacer. Et partout, c'est désormais la procédure. Par exemple, au centre commercial.
Alors là, je vais scanner mon QR code.
Si vous êtes resté à Pékin, Yan Jiao et Lang Fang, ça va.
C'est devenu un nouveau geste, des dizaines de fois par jour.
Les tout derniers sons, tout ce qui se passe à Pékin, c'est issu d'un documentaire sur Arte. Voilà, que je vous invite à aller voir si vous voulez en voir plus, malgré la voix un peu reporter. Mais c'est bien badant en tout cas de voir en ce moment ce qui est en train de se passer niveau répression à Pékin.
Où des gens n'ont plus le droit de rentrer dans leur quartier.
Ouais, si t'es sorti de Pékin dans les 14 derniers jours, t'as même plus le droit de rentrer dans ta rue pour aller chez toi, quoi.
Ouais, moi ça m'a fait penser à la belle chanson de Starmania qui s'appelle...
Monopolis.
Et c'est le refrain, c'est « On aura tous un numéro dans le dos ». En l'an 2000, on aura tous un numéro dans le dos. Et bon, c'est pas... On n'a pas un numéro dans le dos, on a un numéro dans la poche. Et ça... Ça se voit bien, là.
Bon, et bah... Après toutes ces nouvelles et toutes ces analyses bien badantes, j'avais quand même envie de parler des nouvelles pratiques contestataires qui sont en train de se mettre en place par rapport à toute cette répression-là, parce qu'il se passe quand même des choses. Et ouais, j'ai envie de parler de Berlin parce que c'est là où je suis et c'est là que je connais le mieux. Puis j'ai trouvé des petits exemples pas mal. Donc ce que je sais, c'est qu'il y a en ce moment, il y a des gens qui sont en train de faire un projet de théâtre et qui veulent parler du confinement de manière politique. Et ils vont jouer avec des masques. Enfin, des masques de théâtre, hein, pas des masques de Covid-19. Qui est en fait aller dans les cours des immeubles, aller dans les arrière-cours. Souvent à Berlin, c'est comme ça, il y a un premier immeuble qui donne sur la rue, puis tu peux passer à travers l'immeuble, et puis il y a l'arrière-cour et un deuxième immeuble. Et du coup, ils veulent aller jouer là, dans les arrière-cours, et que tout le monde puisse venir voir le spectacle depuis leur fenêtre. Donc pas de problème d'histoire de contamination, etc. Et quand même pouvoir continuer à être présent dans la rue et à interpeller les gens de là-dessus, en essayant de contourner les règles liées au Covid. Il y a aussi eu des manifs qui ont été déjà organisées. Il y en a eu une qui était à côté de Berlin et qui a été organisée par une ONG qui s'occupe de venir en aide aux personnes en exil, notamment en Méditerranée, etc. Qui s'appelle Seebrücke en Allemagne. Et ils ont appelé les gens à venir faire la queue devant une boulangerie, puisque c'est comme en France, t'as le droit de rentrer qu'à un dans le magasin, et donc il faut faire la queue, chacun à 1m50 les uns des autres dans la rue. Et voilà, ils ont donné une heure et un magasin, et il y a eu apparemment 200 personnes qui sont venues faire la queue devant ce magasin, enfin faire la queue entre guillemets, et qui sont venues avec des pancartes qui disaient des trucs par rapport aux sans-papiers, aux frontières, etc. Ils balançaient des slogans, et puis ils étaient comme ça sur des mètres et des mètres. Et ils se sont fait emmerder par les flics. Les flics, du coup, ont pris leur carte d'identité. Et il y en a plusieurs qui se sont retrouvés à avoir une procédure d'infraction administrative. Ce que la police, quoi, a dit après, c'est que, en gros, du coup, c'est elle qui a jugé du fait que c'était un rassemblement politique. Et pour eux, leur définition, du coup, de ce que c'est un rassemblement politique, parce qu'a priori, bah, c'est eux qui le définissent, quoi, normal. Et du coup, c'est qu'il faut que les gens se tiennent au même endroit, et communique sur le même thème. Et du coup là, ils se tenaient tous au même endroit devant la boulangerie, et ils ont tous communiqué sur le thème des frontières, etc. Ils ont donné leur opinion sur un thème en commun. Et du coup ça, c'est pour eux leur définition de rassemblement politique. Et je trouve ça ouf que ça soit les flics qui décident de ce que c'est. Enfin, au-delà du fait qu'on n'a pas le droit de se rassembler, on a le droit de faire la queue, mais dès que tu sors une pancarte, là t'es en infraction, alors que t'es pas en train de plus contaminer les gens par rapport au corona parce que t'as une pancarte, quoi. Au-delà de ça, en plus, c'est au bon vouloir des flics de définir ce que c'est l'aspect politique ou pas, quoi. Et dans le même genre, il y a une autre action qui a été mise en place où là, c'était en voiture. Du coup, il y avait des gens en caisse qui avaient sorti des banderoles sur leur caisse, qui avaient entre guillemets, décoré les voitures avec... du contenu politique, et qui se sont mis les uns derrière les autres. Et c'est pareil, là, ils ont eu aussi plein de problèmes avec les keufs. Ils ont été apparemment maintenus par les flics, genre les voitures ont été nassées, entre guillemets, pendant 2 heures. Et il y en a qui vont aussi devoir passer en justice, etc. Pour les mêmes raisons, alors qu'ils sont en voiture. Et du coup, c'est aussi la question de... à partir de quel moment ta voiture délivre un message politique. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont des autocollants sur leur voiture. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu délivres un message politique et que tu peux te faire emmerder par les flics, quoi? Je pense que la question que ça pose, c'est qui décide de quelles sont les activités nécessaires qui doivent rester dans un moment, entre guillemets, de survie, de vie ou de mort, on fait que les trucs qui sont essentiels à la continuation de la vie en société pour pas que tout s'écroule. Qui décide de ce qui est essentiel à la vie en commun, quoi? Et là, clairement, l'État s'est arrogé le pouvoir de dire qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et du coup, c'est essentiel d'aller acheter du PQ, c'est pas essentiel d'aller communiquer sur un sujet. Ce que je remarque aussi, quand même, pour donner des petites notes positives entre deux, c'est que, bizarrement, enfin, en tout cas, un peu contre-intuitivement, les parcs, les espaces publics en ce moment, ici, ils sont en train de devenir aussi les lieux de rassemblement privilégiés entre potes. Puisqu'il y a beaucoup ce truc de... si tu te vois à l'extérieur, t'as beaucoup moins de chances de contaminer et du coup de créer des chaînes de contamination que si on se voit tous chez les uns, chez les autres. Enfin, les quelques réunions ou retrouvailles entre potes et tout qui se font, et en fait, elles se font dans les lieux publics en extérieur. Je trouve ça assez marrant comme, comme paradoxe.
En paradoxe comme ça, marrant, en France aussi,
on a le fait que les tags ne sont plus effacés, quelle que soit la teneur du tag. Tu peux aller laisser des messages un peu partout.
Ah ouais, bien. Donc j'avais envie de vous donner un dernier exemple, qui sont des manifs qui se passent le week-end. Et j'ai fait une petite interview de quelqu'un qui est allé à ces deux manifs. Je trouvais ça intéressant d'avoir son point de vue et ses impressions aussi de comment c'était du coup de manifester en confinement. Salut Gudrun, merci d'avoir accepté de parler au micro de Démasqué, des manifs qui ont eu lieu en avril à Berlin, en pleine période de confinement. Est-ce que tu pourrais nous dire d'abord à quoi ces manifs ressemblaient ?
Salut ! C'était des manifestations sur un temps court, de une demi-heure, 20 minutes, comme un flash mob en fait. Tout le monde arrive d'un coup et repart d'un coup. Et il y avait à chaque fois entre 50 et 100 personnes qui venaient par équipe de deux pour respecter les règles liées au virus à Berlin. On a le droit de se promener par deux. Et chaque équipe venait avec une pancarte, une banderole, une chanson, un discours. Et la première fois, on a bloqué un grand rond-point. La deuxième fois, il y a eu deux rassemblements différents sur un gros carrefour et dans un parc.
Merci. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer pourquoi elles ont été organisées, ces manifs ?
Oui. En ce moment, on nous dit qu'il y a une seule réponse responsable à l'épidémie. Et ce serait la distanciation sociale. Mais cet ordre de rester enfermé à la maison fonctionne seulement pour ceux qui déjà ont un foyer sûr et assez de moyens financiers, non ? Et donc, l'idée de la manif, c'était de montrer que oui, c'est sûr, le coronavirus est dangereux pour la santé des gens, mais qu'il y a d'autres facteurs comme les frontières, les violences patriarcales et les inégalités sociales qui sont tout aussi dangereuses pour beaucoup de gens et qui sont encore renforcées dans cette crise. Et voilà, ces dernières semaines, j'ai l'impression que l'État allemand se met en scène comme une mère patrie protectrice et qu'en faisant ça, il gagne de la crédibilité et du soutien populaire. Et voilà, en temps normal, ce même État s'en fout de notre santé et mène une politique vraiment, vraiment très, très répressive et est en train de réduire nos droits et nos libertés. Donc l'état d'urgence qu'il a mis en place réduit aussi complètement le spectre de nos pensées, de nos émotions, de notre manière d'agir. Je pense que ce discours paternaliste nous retire le pouvoir d'agir pour nous-mêmes. Et il prend en charge les catégorisations de ce qui est essentiel à la vie de la société ou non. Et ça, c'est dangereux de laisser ces décisions à l'État, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu des manifs, même s'ils sont interdites, non ? Il faut montrer comment les décisions politiques liées au corona renforcent les inégalités et pas que sur Internet, en fait. C'est très important de le faire aussi dehors. Car en ce moment, il y a un discours qui dit que les lieux publics et la rencontre avec d'autres personnes seraient dangereux. Et on se met à percevoir l'extérieur comme une zone interdite et dangereuse, comme une menace en fait. Et si on fait ça, si on se laisse imprégner par ce discours-là, on va devenir les parfaits citoyens en fait, isolés, qui restent tout le temps chez eux, ce qu'ils rêvent de nous voir devenir en fait. Et c'est pour moi aussi un combat politique d'agir contre les mécanismes psychologiques qui nous poussent à nous isoler.
C'était comment pour toi alors d'être dans ces manifs ? Je sais que la fois où on en a parlé ensemble, tu avais été très enthousiaste. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ?
J'ai bien aimé l'aspect spontané. Je trouve que nos manifs d'habitude sont souvent très routinières, amène peu à des blocages ou d'autres confrontations réelles. Donc des fois, on s'ennuie en fait, en train de répéter la même chose. Et là, d'un coup, on réussit à faire des choses qu'on n'arrivait pas vraiment à faire avant. Donc, par exemple, à se masquer et du coup vraiment rester anonyme, à bloquer la rue. Et ça, pour moi, rend visible l'effet pacifiant des manifs déclarées légales. Et là, vu que de toute manière, c'est pas déclaré, enfin, on ne peut pas déclarer les manifs, il y a plus d'espace pour le faire à notre manière. Et Bon, les flics n'ont pas trop compris au début. Ben, ils savaient pas trop comment réagir. Mais samedi dernier, il y avait 9 arrestations quand même. Et bon, voilà, pendant les arrestations, il y avait très peu de respect des règles de protection contre l'épidémie de la part des flics. Et bon, c'est clair, ça montre que quand tu es considéré comme une personne anormale, marginale ou dangereux, ben, la protection, ils s'en foutent. Ce genre de protection contre l'infection disparaît et les violences habituelles des flics reviennent. Et ça rend visible qu'au final, ce sont les keufs qui font la politique de l'épidémie, enfin, ou de la pandémie, et qui décident quelle expression publique est légitime. Et ça, c'est une tendance qu'on observe depuis longtemps dans cette ville, ce sont les flics qui font la politique ici. Mais ça se renforce encore plus maintenant.
C'est un bon résumé de tout ce qu'on vient de dire, quoi. Et bien donc là, on a beaucoup parlé d'exemples qui sont à Berlin, qui sont du coup dans une très grande ville, et on avait aussi un peu envie de s'intéresser à ce qui se passe en pleine campagne dans les gens qui sont, enfin, chez les gens qui sont dans les tout petits villages, comment c'est le confinement et quelles conséquences ça a sur eux et sur leur manière de penser, etc., et leurs interactions. Et Gertrude, je crois que tu avais des choses à dire.
Eh ben ouais, j'avais pas grand-chose, mais j'en ai parlé un peu avec quelques personnes qui habitent en campagne. J'ai fait un peu une espèce de mini-compilation. Et en gros, en campagne, il y a tout. Il y a effectivement des connards qui se permettent de gueuler sur les gens qui se baladent dans la nature, à coup de « Mais vous avez pas le droit !» Rentrez chez vous, vous êtes dangereux, ou des petites choses comme ça. Mais il y a aussi pas mal de solidarité qui se crée à des nouveaux endroits, notamment le fait que pas mal de gens qui se parlaient pas se parlent avant, se parlent maintenant d'une fenêtre à l'autre ou par-dessus une haie, et ou alors que c'est devenu pour certaines personnes la promenade quotidienne. On fait le tour des voisins. Et alors qu'on se connaît pas très bien du tout, qu'on kiffe parler 2 minutes et se raconter 2-3 petits trucs. Même les personnes qui se permettent d'engueuler les autres qui sortent. Et y a aussi dans pas mal de petits villages le truc de, on sait où sont les flics, les 2 flics du village. Du coup, on est un peu tranquille. Donc voilà, donc comme finalement un peu partout, il y a à la fois un truc d'entraide et de causerie, mais il y a aussi un truc de mater ce que font les autres, surveiller ses voisins et ses voisines. Voilà ce que j'ai.
Moi, j'ai quand même entendu que dans un tout petit village, là, qu'en fait, il y avait quasiment que des vieux qui vivent sûrement là depuis un peu toujours, et qu'il y a plein de places, et que donc, ils continuent, en gros, à faire un petit peu leur vie, et ils se croisent peut-être juste moins proches sur le trottoir, parce que de toute façon, vu qu'il y a une rue pour 10 habitants, t'as pas beaucoup de chances de croiser. Enfin, tu vois, c'est pas comme à Paris où t'es obligé de te coincer dans le métro entre des gens et tout. En fait, ils continuent à faire leur truc, et ça, j'ai l'impression, moins d'impact dans ce genre de lieu que dans les grandes villes.
On n'a pas parlé de la question de l'appel à manifester anonyme sur Internet qui a amené à des perquisitions.
Et du coup, a priori, ce serait une personne dans le sud de l'Allemagne qui aurait appelé sur des réseaux sociaux à manifester de manière pacifique pendant le week-end de Pâques. Qui aurait aussi été balancée par plusieurs internautes aux flics. Et du coup, ils ont recherché son identité, et ils sont arrivés à remonter jusqu'à lui avec l'aide des personnes qui maintenaient le serveur du site sur lequel il avait posté son truc, ce qui n'était pas indiqué quel site. Et ils ont retrouvé, et ils ont réussi à refiler son identité, et ils sont venus chez lui le perquisitionner, et ils l'ont arrêté. Et la raison de l'arrestation, c'est appel à commettre des crimes ou des délits.
Ouais, donc c'est considéré officiellement comme un délit, quoi. Oh, c'est badon. Ben, merci beaucoup d'avoir développé.
C'est badon, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des poches de possibles, quoi. Par exemple, avec cette histoire d'aller faire du théâtre ou quoi, d'arriver à trouver comment est-ce que, sans se retrouver à avoir trop de répression de la part des flics, où est-ce qu'il y a encore des trous? En tout cas, de pas rentrer dans cette mentalité de se dire « Oh là là, d'aller à l'extérieur, c'est beaucoup trop dangereux, il vaut mieux que je reste enfermée et que je m'isole. » Et oui, il y a dans certains cas, et ça peut faire du sens, et de pas aller voir tout le monde, n'importe qui, j'irai pas faire des bisous à ma mamie demain, mais ça veut pas dire que je peux pas, moi, me poser la question de quelles conséquences psychologiques ça a sur moi, sur nous, tous et toutes, et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça.
De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Mirabelle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter.
Voilà, on vient d'écouter France Gall qui nous chante Monopolis et qui est extrait de la comédie musicale Starmania dont Gertrude nous parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, je laisse la parole à Gertrude qui va nous parler de la dématérialisation et de ses effets pervers.
Alors, on a parlé de l'espace public pendant un certain temps à l'instant. Et maintenant, on va parler de l'espace virtuel un petit peu. un mot compliqué, dématérialisation. Ou pourquoi se voir moins pour faire plus d'ordi pour se voir moins, c'est pas ouf. Alors du coup, le fait qu'on soit en confinement, ça emmène nos échanges vers la dématérialisation. Dématérialiser, c'est un mot qui est un mot menteur, qui en vrai signifie passer au numérique. Voilà, on aime bien inventer des mots compliqués pour dire des choses un peu simples qu'on sait déjà dire autrement. Et en fait, il se trouve que le numérique, c'est quelque chose qui est absolument pas dématérialisé. Il y a du matériel. Il y a des centaines de milliers de kilomètres de câbles en France. On les voit quand on se balade dans la rue, en ville et en campagne. Il y a des piles d'ordinateurs, des serveurs qui sont... C'est des piles qui sont grosses comme des lycées et qui consomment autant d'électricité qu'une ville de 30 000 habitants. Autrement dit, c'est quelque chose de matériel, l'informatique. Et le mot dématérialisé, il est dans la même veine que les mots cloud ou nuage qu'on entend beaucoup depuis quelques années, notamment dans la publicité. Et qui, du coup, c'est un mot qui essaye de cacher derrière un imaginaire léger et... je sais pas trop comment dire, quoi, un peu joli, une réalité qui l'est vachement moins, c'est celle de la surveillance de masse et du contrôle de nos données, évidemment mis en place par quelques grosses entreprises qui sont très rarement réellement intéressées par la question du respect de la vie privée. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça pendant une émission sur pourquoi le confinement c'est du caca ? Eh bien, tout simplement parce que ce processus de dématérialisation et l'outil numérique de manière générale, ça permet aux États d'avoir un meilleur contrôle sur la population. On passe des fiches manuelles des années de quand j'étais enfant, avant les années 2000, où toutes les infos étaient stockées dans des grandes armoires métalliques et il fallait des humains pour chaque opération. Il fallait qu'il y ait des gens qui aillent dans ces armoires vérifier ce qui était marqué sur une fiche ou marquer quelque chose sur une fiche. Du coup, on passe à des fiches qui sont informatisées, qui sont remplies automatiquement, pour lesquelles il n'y a pas de limite de quantité. Et sur chaque fiche, on peut indiquer autant d'informations qu'on veut. Et on peut y appliquer des algorithmes de classement et faire des recherches extrêmement rapidement. Et du coup, passer du tout manuel au tout numérique... Ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. C'est comme... non. Et pour en savoir plus, du coup, sur l'aspect numérique, il y a la possibilité d'écouter ou de regarder l'émission « Résistons à la surveillance de la quadrature du net ». Et globalement, les informations de la quadrature du net sont très intéressantes à ce sujet. Alors, dans le cadre du confinement, il y a quelques trucs un peu spécifiques qui sont en train de se jouer. De manière globale, on pousse chaque individu à s'occuper grâce à Internet. Même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande aux enfants de jouer à des jeux vidéo pendant le confinement. On en est quand même là. Et puis on peut voir que partie en tout cas des sites de vidéoconférence ou visioconférence sont assez surchargés, ça bug, Internet est assez lent, beaucoup plus lent que d'habitude. Rise Up voit son nombre de créations de comptes augmenter de ouf. Framasoft a dû créer des instances spéciales Covid-19 pour résister.
C'est quoi Framasoft ?
Framasoft, c'est une association française qui a pour but la promotion d'alternatives libres, donc du logiciel libre à la base, mais d'alternatives libres. Et leur projet principal, c'est un truc qui s'est appelé Dégooglisons Internet, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Et qui, du coup, l'idée, c'est que Framasoft propose des services alternatifs aux services des grandes entreprises.
Et du coup, ils ont tellement de demandes sur leurs services que là, ils ont dû mettre en place des choses spéciales pour résister, c'est ça ?
Exactement, pour résister à la surcharge. Bref, il n'y a jamais eu autant de monde sur Internet en même temps. Alors, ça a du bon. On peut se parler même confiné, même à 3000 km. On peut mater tous les films qu'on veut quand on veut, c'est super. Et bien, ça vient aussi nous rendre dépendantes à ces outils. Et on le voit chez plein de gens qui sont assez résistantes au numérique habituellement, qui aujourd'hui se créent des comptes Discord ou Netflix et qui vont probablement pas s'arrêter en si bon chemin, étant donné que ces outils-là, et spécialement Netflix, c'est des outils qui sont faits pour nous rendre accros. C'est pensé d'un bout à l'autre pour qu'on commence par créer un compte gratuit et on finit 5 ans après à avoir le compte famille complet avec 18 comptes dessus et on paye 25€ par mois ou je sais pas combien ça coûte. Il y a une super chaîne YouTube qui n'est pas toute super, mais qui s'appelle Un Créatif, qui parle assez bien de ça, de comment Netflix et YouTube et d'autres applis, services, sont conçus pour nous rendre dépendantes.
Et moi, je l'ai à fond avec Facebook Watch. Ils te proposent des vidéos et après, tu cliques sur une vidéo et ils t'en proposent une autre et une autre et une autre. C'est horrible.
Mais bref, du côté des services publics, on voit des organismes comme la CAF ou la Sécu pour lesquels il y avait encore moyen de recevoir les infos par courrier postal. Bon, c'est chiant, la CAF et la Sécu, hein, sur plein de bouts, il n'y a pas à dire. Mais n'empêche qu'elles se dirigent elles aussi vers le tout numérique. De plus en plus, il y a l'obligation d'avoir une adresse email pour de plus en plus de services publics.
Ouais, c'est ouf, même pour ouvrir un compte en banque, par exemple, il te faut une adresse email, sinon tu peux pas avoir un compte en banque, des trucs comme ça.
Mmh. Voilà, ça n'a rien à voir, hein, mais bon. C'est... Et le confinement, ça accélère de ouf le processus du tout de aller vers le tout numérique. Alors, on pourrait dire que ça a du bon, encore une fois. J'ai pu récemment m'inscrire comme SDF sans avoir à me déplacer, c'était super, j'adore faire ça depuis la maison. Mais en fait, ça vient exclure toutes les personnes qui n'ont pas accès à ces technologies, que ce soit volontairement, qui volontairement se mettent en retrait de ces technologies, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas accès par barrière du langage ou juste qui n'ont pas cette habitude-là et qui n'ont pas envie de fonctionner. Et aussi, je peux quand même en parler, les personnes pour qui ces technologies-là sont néfastes sur la santé.
Et est-ce que c'est pas aussi une manière de encore plus aussi surveiller les gens en faisant des liens entre toutes les choses différentes qu'elles font sur Internet, etc.
Alors ça, c'est la question du numérique plus largement. Peut-être je pourrais en parler un peu plus tard. Là, je vais surtout parler des trucs spécifiques à comment ça change aujourd'hui.
Ouais, mais le fait qu'on soit encore plus dépendant de ça, parce qu'on a encore plus de comptes, que ça soit la Sécu ou Netflix, ça fait qu'on peut encore plus nous surveiller sur tous les aspects de notre vie.
Ah, complètement, complètement. Et c'est complètement un des objectifs du tout numérique. C'est, on pourrait revenir, si on voulait, on pourrait parler de Linky et de, globalement, la Smart City. Là, c'est vraiment l'apogée du tout numérique, où même l'électricité en vient à être gérée numériquement et à être suivie par des ordinateurs, activée, désactivée par des ordinateurs, et qui permet d'avoir un suivi précis de la consommation électrique de chaque individu dans leur maison. Enfin, et bien dit, tout ça, ça fait partie de la société, la Smart City, entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est le nom, la Smart City, c'est un projet de société et de ville dans lequel de nombreux dirigeants se plongent, parce que ça a l'air un peu marrant quand t'es du côté des dirigeants.
Mais moi, ça me fait penser à SimCity, ce que tu dis, quoi. Ce truc où tu créais une ville, t'étais maire de ta ville, et puis tu gérais tout numériquement.
Alors moi, j'ai plutôt joué à César. Bon, en tout cas, tout ça, ça vient rendre l'informatique indispensable dans nos vies, dans un monde où elle est déjà omniprésente. Du coup, ça vient renforcer l'omniprésence du numérique. Ça se voit aussi dans les écoles, tous les établissements scolaires, enfin une bonne partie en tout cas des établissements scolaires qui s'essaient aux cours par internet, mais du coup les élèves se connectent sur un site web et partagent leur micro et parfois leur webcam avec les profs, et voilà, quelques jours après l'envol de l'entreprise Zoom, qui est un service de visioconférence qui est extrêmement en vogue dans les établissements scolaires en France, au Canada et dans d'autres endroits, on s'aperçoit que il y a des failles dans ce logiciel, notamment des failles qui permettent à des personnes malveillantes de prendre le contrôle de l'ordinateur sous Windows. Heureusement pour moi, par exemple, qui n'utilise pas Windows, c'est super. Et aussi que des centaines de milliers d'adresses mail ont été rendues publiques, etc., etc. Bref, Zoom a de nombreux trous de sécurité. Plutôt du côté des dirigeants et de la publicité qui est faite en faveur de Zoom, on a tendance à un peu s'en foutre. Et c'est pas pour nous rassurer. Alors après, au Canada, il y a des établissements scolaires qui ont essayé de mettre ça en valeur un peu pour dire non, Zoom, c'est pas adapté à une utilisation massive. C'est une entreprise privée qui va faire de l'espionnage, etc. Ça reste minime. La résistance à ça, elle reste minime. Et que de toute façon, les cours en ligne, on pourrait sûrement y trouver plein d'autres critiques que juste l'utilisation de Zoom. Un autre changement, entre guillemets, qui va dans la direction de dématérialisation, c'est l'utilisation du liquide. Dans les supermarchés, on commence à se faire refouler si on paye en liquide. C'est super! C'est très pratique. l'épidémie pour pousser à l'utilisation exclusive de la carte bancaire. Ça permet aux banques et à leurs potes de suivre en direct un grand nombre de déplacements et l'activité financière d'un grand nombre de gens. C'est quelque chose qui s'est déjà vu avec les cartes de l'OFI, les cartes OFI, qui sont les cartes bancaires qui sont données aux personnes qui font des demandes d'asile. Avant, il y avait de l'argent qui était donné en liquide. Maintenant, l'intégralité de l'argent qui leur est versé est sous forme de carte bancaire et le retrait n'est plus possible. Donc là, on arrive un peu à la même chose pour un peu tout le monde.
Mais c'est hyper grave ce que tu dis là. Ça revient et c'est... Enfin, moi, par exemple, je suis hyper concernée par ce que tu dis. Ça veut dire que potentiellement, à un moment, je pourrais plus faire mes courses, quoi.
Alors, l'avantage, c'est qu'on est en France et que le cash, c'est quand même un des... Si, c'est carrément en France, mais le cash, c'est un des moyens de paiement les plus utilisés. Et il y a encore plein de magasins qui n'ont pas les lecteurs de cartes. Et du coup, on peut croire que la disparition du cash, ça va pas arriver tout de suite. N'empêche que, même s'il n'y a pas de disparition du cash, il y a augmentation de l'utilisation de la carte bancaire. Et ça va très clairement avec augmentation du suivi des déplacements, du suivi des dépenses, de l'analyse des comportements. Et là, l'argument officiel, c'est proposer un service répondant plus efficacement à la demande du client. Moi, j'ai envie de répondre « lol ».
Mais puis ça veut dire que c'est la fin de toutes les économies parallèles. C'est-à-dire que tous les gens qui ont choisi des systèmes pour vivre qui sont pas le RSA ou pas le travail, on est trop niqués, quoi. Enfin, je trouve que ça, au-delà de la question de la vente d'informations, ça annonce un contrôle social super violent, quoi.
Ouais, je pense qu'on n'y est pas encore. Oui, je parlais pas forcément de la vente d'informations, je parlais de l'analyse de l'information, de manière presque instantanée, mais je pense pas que ce soit non plus instantané. Mais en tout cas, ça a déjà eu lieu que des utilisations de cartes bancaires soient utilisées dans des procès. Et là, bah, plus il y en a, et plus ça va aller dans ce sens-là. Et ne pas avoir de carte bancaire, c'est déjà aujourd'hui quelque chose de bizarre. Bah, post-confinement, ne pas avoir de carte bancaire, ça va être encore plus bizarre, à mon avis. Et il y a un autre truc qui se généralise de ouf grâce au confinement, entre guillemets grâce, c'est le télétravail. Moi je fais pas de télétravail, du coup j'en parle depuis une position de extérieur, mais par contre j'ai l'habitude de travailler à distance avec d'autres gens, finalement de faire du télétravail, mais c'est pas du télétravail déclaré, donc je connais un petit peu quand même la question de travailler à distance. Dans le cadre du télétravail, la grosse question c'est la surveillance des personnes qui font le télétravail. Il y a des applications qui ont été conçues récemment et moins récemment pour faciliter le télétravail, mais qui permettent en réalité aux patrons de surveiller assez efficacement leurs employés. Moi j'ai entendu parler de deux applis, il y en a une qui s'appelle InterGuard et une autre qui s'appelle Sneak. Le but d'origine de Sneak, c'est de renforcer l'esprit bureau, j'ai mis des guillemets mais vous pouvez pas le voir. Cette application, elle permet à chaque participant et participante de voir en direct et sur une même page tous ses collègues pendant les heures d'entreprise. Donc ça veut dire que de, je sais pas quelle heure le matin, 9-10 heures, j'imagine, ou 8, hein, jusqu'à l'heure de fin 17 heures, on a notre webcam qui est allumée, ce qui permet à nos collègues, mais aussi au patron, de voir si on est bien devant l'ordinateur en train de travailler, de s'assurer qu'on n'est pas en train de regarder une série ou de faire je sais pas trop quoi d'autre. Surveiller tout le monde d'un coup. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans une autre émission.
Bah puis surveiller chez toi, quoi. C'est ça y est.
Surveiller chez toi, ça c'est un truc de ouf. C'est qu'on installe volontairement une caméra dans notre maison. Et il y a la question de la télémédecine. Ça c'est le truc un petit peu funky du moment. Alors en fait, c'est pas tout à fait récent. Il y a la divers organes de je sais pas quoi en France qui essayent de pousser à la télémédecine depuis une bonne dizaine d'années, depuis de mes lectures, hein, je sais pas exactement ce qu'il en est. Et du coup récemment, eh ben c'est super. On n'a plus besoin de se déplacer pour voir le médecin, mais trop génial. On peut aller dans une pharmacie équipée d'une télécabine et de son stéthoscope connecté. Oui oui oui. Et ou alors on peut directement faire un Skype, un FaceTime ou utiliser WhatsApp pour avoir une téléconsultation. Ça a l'air génial. On n'a même plus besoin que ce soit avec notre médecin traitant. C'est remboursé, c'est super. Alors, au-delà de la question de la qualité d'une téléconsultation, on peut se poser la question du secret médical. On n'a actuellement aucune preuve, on n'a rien pour nous dire que la communication entre la télécabine de la pharmacie et le médecin est sécurisée. Du coup, si je vais à la pharmacie dans cette superbe télécabine pour me faire ausculter virtuellement par mon médecin, déjà ça me fait flipper, je sais pas vous, mais moi ça me fait bizarre. Je sais pas si mes informations, elles vont pas pouvoir être écoutées et analysées par des gens sur la route entre la pharmacie et le médecin. Et étant donné que la plupart des consultations vont se faire plutôt avec un ordinateur, donc globalement avec Skype, FaceTime ou WhatsApp, ben on connaît bien ces applications-là, on les connaît déjà. Et on sait déjà qu'elles appartiennent à Microsoft pour le cas pour Skype, à Apple pour FaceTime et à Facebook pour WhatsApp. Et ces trois-là, Microsoft, Apple et Facebook, ils sont pas spécialement connus pour leur engagement dans le respect de la vie privée de leurs utilisateurs et utilisatrices. Il y a un certain nombre de dossiers qui sortent déjà au niveau de qui sont déjà sortis pour Skype et WhatsApp et Facebook et Apple, de manière générale, sur des questions de non-respect de la vie privée et du consentement des utilisateurs et utilisatrices des produits. Voilà, en conclusion, je pourrais dire que ce processus de dématérialisation, il avait carrément commencé avant l'arrivée du Covid, c'est clair. Mais l'épidémie, c'est une nouvelle excuse, encore une fois, pour que les industriels des nouvelles technologies puisse pousser encore plus fort dans la direction du tout numérique. Et ce qui est particulièrement important avec le numérique, c'est pas que ça nous simplifie la vie ou que ça nous donne accès à plein de films gratos. Enfin, si, c'est super que ça puisse simplifier la vie de plein de gens et nous donner accès à des films. Mais c'est surtout que le numérique, c'est pas conçu pour respecter nos libertés et notre vie privée. Donc si on va dans cette direction du tout numérique et qu'on tient à nos libertés privées et à notre vie privée, on a intérêt dès maintenant à adapter nos habitudes et nos pratiques numériques. Pour ça, je vous recommande de visiter le projet Dégooglisons Internet, qui est un projet de Framasoft, qui est excellent pour tous les gestes de base. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire le guide d'autodéfense numérique, ou alors le Surveillance Self-Défense de l'Electronic Frontier Foundation. Bon courage.
Merci beaucoup Gertrude pour toutes ces petites informations qui seront sans doute très utiles pour nos auditeurs qui sont encore sous Windows et qui utilisent Google Chrome. Et ça marche aussi, bien sûr, si vous êtes chez Mac. Arrêtez Mac, on enlève Apple, c'est de la merde.
Apple caca, Apple caca, Apple caca, Apple caca. L'épidémie est une nouvelle excuse pour que les industriels des nouvelles technologies puissent pousser encore plus fort dans la direction du tout numérique.
Et sinon, blague à part, j'ai l'impression, maintenant que tu as fini de développer ton point et que Janine aussi, que finalement, en fait, tout ce dont on a parlé, là, c'est des choses qui en soi étaient déjà en place, mais que cette épidémie est en train de permettre de faire exploser un peu.
Ouais, c'est tout d'un coup, c'est une fenêtre, ils avaient déjà tout dans les cartons, ils avaient commencé à le faire tout doucement, et là, tout d'un coup, c'est une fenêtre pour, bim, lancer tout le projet, mais à vitesse grand V tout d'un coup, quoi. C'est pas nouveau, mais ça prend une nouvelle dimension.
Excellent, ça fait un peu peur, mais bon, on verra bien.
Effectivement, Gertrude, tu as raison, nous verrons bien. Et pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter la très
jolie chanson de Colette Mani qui s'appelle « Répression » et qui conclut bien ces trois sujets que nous venons de traiter.
Je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous. La rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers. Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce. Mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leurs canards préférés. Salut les cops ! Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite! La masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs, ils sont en danger. Arakiririkira, 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 le dernier. Eden, Eden, Eden. Ici, on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison. Ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les... magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on?